Et maintenant, chers auditeurs, c'est le moment de l'émission, vous le savez, je ne contrôle plus rien. Born to be alive.
Un duel, une joute, que dis-je ? Un mano à mano sans pitié nous attend. Et aujourd'hui, encore plus que d'habitude, car vous êtes dans une égalité parfaite au niveau des scores.
Avant ? Avant ?
J'ai senti énormément de moqueries du côté de Clémentine.
Non,
et franchement, c'est moche.
Bouffée,
c'est moche, tout simplement, c'est,
oui,
moche.
C'est moche. Mais je crois que ça lui vaut un point moins.
N'essayez pas de m'influencer, je suis incorruptible, vous le savez. On va commencer avec vous, Stéphane. Après les guerres napoléoniennes, les médecins, pour parler des états post-traumatiques causés par l'utilisation d'obus, enfin d'obus explosifs, parlaient d'un syndrome appelé le vent du boulet. Après la Première Guerre mondiale, tous les troubles psychiques et physiques ont été regroupés sous le mot la bombardite. Vrai ou faux ?
Je crois pas à la bombardite. Non, j'y crois pas du tout.
Ah, pas du tout ?
Non. Ah, pas du tout.
Non.
Oh, pas du tout. Et vous ?
Non,
Clémentine ?
Non, non,
vous avez
pas.
Dit ? Vous aviez une proposition, j'ai l'impression.
Le blast, c'est le vent du boulet. Le blast, le vent du boulet peut vous désarçonner. Il suffit ça peut, sans vous toucher, passer à côté de vous et vous faire tomber de cheval.
C'est ça, mais là, on parle français, madame.
Non, je n'y crois pas. Je peux me tromper.
Moi non plus,
hein,
la bombardite.
Vous savez, moi, je fonce comme ça.
C'est ça, vous êtes un instinctif. Vous êtes un cheval fou.
Exactement.
Allez, on écoute la réponse.
Vous avez gagné.
Bravo. Ce n'était pas la bombardite, c'était l'obusite.
Et ben voilà.
Après 1918, beaucoup de soldats vont être internés. En Grande-Bretagne, on en dénombrera 120 000.
En
Allemagne, 600 000. En France, malheureusement, on n'a pas les chiffres précis.
Ce n'est pas simplement les blessures liées aux obus. C'est le bruit, en effet, le blast, les... C'est affreux.
Arrêtez avec le blast maintenant. Hein, là, on parle d'obusite.
Pour une fois que je connais le mot.
Oui, mais c'est ça. On sent bien que vous voulez le placer absolument.
Bah oui, je veux bien.
Trouver
moi,
une question avec un blast. Hein.
Allez, alors. 1535. C'est l'invention du blast par François Ier. Non. 1535. François Ier décide d'intégrer au domaine royal le château de Chenonceau. Henri II, lui, décide de l'offrir, non pas à la reine, mais à Diane de Poitiers, sa favorite. Durant l'occupation allemande, le château est traversé par la ligne de démarcation.
Bah oui.
Oui, sur le Cher. Oui.
Voilà. Quand on était dans le château, on pouvait être en zone libre,
oui.
Ou pas.
Je crois que le château... Oui, mais c'est pervers votre truc. Parce
oui,
que
ça, c'est
le
vraiment...
Château,
alors là,
le château
en effet,
était en zone occupée et c'est la sortie du château, par, non pas par l'entrée du public, mais l'autre, là, quand on va se balader dans les bois... Au fond de la grande galerie,
oui.
Là
où
vous entrez en zone libre.
Je pense que Stéphane a raison. C'est tout à fait. C'est d'une berge à l'autre que l'on était en. Au milieu, ça devait constituer. Ben non, au milieu, on était
très compréhensif.
Oui.
Alors vous dites.
Je dis que non, on n'était pas en zone libre au milieu du château.
Dites oui, dites que c'était la zone libre. Bon, en fait, c'est la ligne de démarcation.
Ok, bah, le Cher est la ligne de démarcation. Alors est-ce que.
Au milieu,
si vous êtes
au
beau milieu de la galerie.
Allez,
vous
écoute,
êtes,
on écoute la réponse.
Vous avez gagné !
C'est vrai. Et d'ailleurs, la résistance s'est servie du château pour passer beaucoup de personnes en zone libre. Göring aussi est venu à Chenonceau, mais pour repérer des œuvres d'art pour le futur musée d'Hitler et pour sa collection personnelle. Vous êtes à égalité, donc une nouvelle question pour Stéphane.
Bah, même si je n'avais pas égalité, j'aurais eu droit à une question.
Non, parce que...
Regardez-moi le petit syndicaliste, là.
Non, puis de toute façon, je fais ce que je veux, je peux arrêter ce jeu quand je veux.
Ah, d'accord.
Et l'autre, là, qui se prend pour le grand patron. Oh non, mais dites donc.
Allez, au revoir.
Alors, merci.
Je m'en vais.
Vous voyez, on aime bien vos questions, finalement.
Ah bah, vous allez aimer celle-là.
On veut des questions.
Histoire de la zoologie, Stéphane.
Oh,
savez-vous que le T-Rex avait des poils roses, des plumes roses.
Vous venez de me dire que vous aimiez ces questions.
Mais pas la zoologie.
Bah, écoutez, Aouin.
Je vous écoute.
Je sais que vous connaissez d'autres animaux que le corgi. Oui. J'aimerais évoquer le grand pingouin.
Oui.
Ah, nous
vous
y voilà.
Vous connaissez un grand pingouin.
Le papa pingouin. Oui. Oui.
Personnellement, je préfère la version de Sophie et Magali.
D'accord.
Qui avait représenté la France.
Et donc ?
Alors, on sait qu'il a été chassé par les hommes de Néandertal il y a plus de 100 000 ans. On sait que le dernier grand pingouin a été tué en Islande en 1844. Voici ma question. Est-ce que le grand pingouin dépassait un mètre ? Qui fait un beau pingouin.
Oui,
un beau pingouin
oui.
De compétition.
Je crois que c'était vraiment
un grand pingouin.
Grand pas. Vous...
Oui, un mètre, c'est ça, oui, dépassé.
Dépassé largement, hein. On écoute la réponse.
Vous avez perdu.
Ah, vous avez un bon sens des proportions. Hein, il dépassait jamais les 85 cm.
Ah, oh, bah, je sais pas, moi, je voyais ça plus grand. Bah vous, on n'en a pas vu, Stéphane.
Mais comment ça,
bah, ils ont disparu en 1844.
Non, on était
nés. Bah, ouais, j'imagine.
Mais vous étiez enfant.
Ouais, oui. Pas. On a dû en voir empaillé, sans oui. doute, un truc oui. comme ça.
Alors, il pesait 5 kilos, il était incapable
ah bon
de voler. On pouvait l'admirer au large du Canada, de la Norvège, du Groenland, de l'Irlande et du nord de la France.
Et pourquoi a-t-il disparu, ce pauvre animal ?
Oh, il a été chassé. J'aurais aimé qu'il fasse plus d'un mètre.
Voilà. Non, mais vous avez vu les pingouins avec les yeux de l'amour.
Oui.
Une question pour vous, Clémentine. Apprendre sur le tas. Voilà une belle expression. À l'origine, on l'utilisait dans les maisons de tolérance. Le tas désignait les nombreux clients que les nouvelles venues devaient satisfaire. L'expression est née des BMC, comprenez, les fameux bordels militaires de campagne. Vrai ou faux ?
Je vois à ma gauche, là, il a l'air de savoir ce qu'il en est.
Bah, il connaît
moi,
bien
ça
les
me plaît pas, ça me plaît pas, votre histoire. Non,
ça
non,
me plaît pas.
Ça me plaît pas, je dis non.
Vous dites non. Vous êtes sûr de vous ?
Moi, j'aurais dit oui, mais bon, comme ça.
Non, moi, ça me plaît pas.
Mais bon. Truc.
Comme ça ?
Non, pas comme ça. Je mon esprit est rétif à admettre que cette expression puisse venir des bordels. Pourquoi ? Alors qu'elle pourrait, vous voyez, ça pourrait être, c'est en forgeant qu'on dit un forgeron, c'est-à-dire que c'est apprendre
oui, c'est
sur
vrai.
Le
ouais.
tas, ça pourrait être une expression de mineur, c'est-à-dire ouais. à force de constituer une expérience dans son travail, on finit par apprendre et je vois pas pourquoi ça serait... Ça, à mon avis, c'est un truc qui est directement lié à l'esprit pervers de celui qui rédige ses questions et qui veut amuser la galerie en faisant des cochonneries. Je dis non.
Excusez-moi,
je dis non.
Vous commencez à être un peu insolente, là. Respectez
bah, je ne dis plus rien, alors, mais voilà. Prenez ma réponse, en tout cas.
Vous dites faux. On vérifie.
Vous avez encore gagné.
Ah, insolente, mais brillante.
Voilà, la moralité, les sauts.
Ah, bah, elle est parpaillote. Hein.
Alors, est-ce que vous voulez quand même savoir ce que c'était
bah,
le tas
oui, mais allez-y, bah, oui. allez-y, oui.
Le tas, c'était l'endroit où on taillait les pierres sur un chantier de construction. Apprendre sur le tas, c'était donc apprendre son métier directement sur un chantier.
Mais voilà. Bravo.
Elle a brisé la série de Stéphane.
Oui.
Il était
moi,
sur 4 victoires.
J'ai pas une question facile. Hein. Les 1 mètre de pingouin, vous m'en mettrez 1 mètre.
C'est ça.
Merci Clémentine, à demain.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Ivan Jacob et nos personnages du jour qui ont redoré le château de Versailles. Après le bien-aimé Louis XV qui a imposé son style à Versailles, je vous raconte celui qui a investi une partie de sa fortune pour le rénover et le redorer, John D. Rockefeller Jr. Et vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter un artiste plasticien qui en a mis aussi à Versailles.
Du plastique ?
Non, de l'or, je veux dire.
Ah oui, c'est vrai, on ne peut rien vous cacher. L'artiste japonais Takashi Murakami a mis de l'or à Versailles avec ses œuvres étonnantes et géantes, et étonnamment géantes d'ailleurs.